Luc 6,
à partir du verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saurait-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saurait-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saurait-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la parée. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, quand vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà, nous examinons la vie de Jésus à travers le regard de Luc et nous sommes toujours vers le début de son ministère. Et ici, dans le texte que nous avons lu, il va choisir ses 12 disciples et ensuite prononcer ce fameux discours. Dans l'évangile de Matthieu, on parle du sermon sur la montagne. Et ici, c'est le sermon sur le plateau. Luc précise qu'il est sur un plateau quand il donne ce discours, ce sermon. Alors c'est possible que c'est le même. Les deux, Matthieu et Luc, rapportent la même chose. Un plateau qui se situe dans les collines qui entourent la mer de Galilée. Ou bien c'est aussi possible que Luc rapporte un autre moment dans le ministère de Jésus, sachant que Jésus reprêchait les mêmes idées dans ses messages. En tout cas, dans la manière que Luc construit son récit, en mettant ces deux événements ensemble, le choix des 12, le choix des disciples, ensuite ce discours, on voit que Jésus est en train de faire quelque chose de très fort. cela ne nous saute pas forcément aux yeux, mais en mettant ces récits ensemble, on voit que, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de créer une nouvelle communauté basée sur de nouveaux principes. C'est la nouvelle communauté de Jésus, pas une communauté religieuse, pas une communauté politique, pas une communauté urbaine, mais une véritable communauté humaine telle que Dieu a prévu depuis le début. Et cette communauté, parfois on parle du royaume de Dieu, mais c'est là où les hommes vivent sous le regard de Dieu, dans les relations qui sont saines et comme elles doivent être. Et c'est ce qui apparaît quand on relit ces deux événements, le choix des douze et ce discours, parce que c'est finalement ce que Jésus est en train de faire. Il choisit douze, et comme nous allons voir, le chiffre n'est pas anodin. Et juste après, ils sont là avec d'autres disciples, et puis il dit voilà comment ça va fonctionner dans mon royaume. C'est le mot qu'on trouve, le royaume de Dieu qui est à vous, dans le verset 20. Donc c'est le discours d'un roi qui choisit ses sujets, ses peuples, qui constitue sa communauté, son royaume, et puis qui donne des principes qui va régir son royaume. Nous étions l'autre jour aux vœux du maire, puisqu'il souhaite ses vœux aux associations du quartier, donc avec Vincent, on y était, et il a terminé son discours à lui, en souhaitant pour la ville de Toulouse beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entente mutuelle, avec beaucoup de citations de Jean Jaurès notamment, bien sûr, mais pas le moindre mention de comment on pouvait faire ça, puisqu'il s'est interdit de faire de la politique dans ses vœux. C'est une année électorale pour lui, donc il nous a souhaité du bien, sans dire comment il va le faire, parce que ça c'est de la politique, et il ne voulait pas en parler. Des politiques, des projets. Donc c'est bien beau, cette entente, cette fraternité, cette solidarité. C'est sûr que nous voulons tous vivre ensemble en communauté. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons été créés pour vivre ensemble. L'étude biblique de cette semaine, si vous y étiez, notre frère Nathan a rappelé que oui, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et quand on le vit, quand on accède à cette entente, cette communauté merveilleuse, c'est splendide. Mais tout le défi est là, parce que nous nous rendons rapidement compte que ce n'est pas toujours doux et agréable de demeurer ensemble avec d'autres, dans une proximité, dans une communauté. Je lisais cette semaine un livre qui expliquait un peu la culture et la mentalité française, et j'ai trouvé une citation intéressante que je vais même afficher. Voilà un peu comment ça fonctionne en France. Il dit « Entre enfants et parents, entre le roi et ses sujets, entre l'administration et ses administrés, entre la direction et les syndicats, chacun laisse l'autre dysfonctionner en paix et tirer avantage de son statut. On apprend à dysfonctionner normalement comme tout le monde. Ça rend malheureux et même déprimé, mais on n'a pas le choix. Cela explique notre manie à dire à tout bout de champ, c'est compliqué. » Et effectivement, c'est la France. Le dysfonctionnement est normal. On s'y fait et on essaie d'en profiter, mais ça quand même parfois ça rend malheureux. Mais ici Jésus il va aborder ça. Son plan, son œuvre, son ministère va toucher à ce dysfonctionnement qui est normal parmi les hommes. Il va le défaire. Il apporte des solutions et pour le faire, nous allons voir ce matin que il va créer un nouveau peuple basé sur des nouvelles valeurs, avec de nouvelles ressources, des ressources inépuisables, renouvelables, qui vont nous aider à vivre cette communauté parfaite, humaine, que Dieu veut pour nous. Tout d'abord, Jésus, son œuvre, son plan, c'est de créer un nouveau peuple. Et ce que nous voyons à partir du verset 12 et suivant, notamment dans le choix des disciples. Parce qu'en fait, toute cette scène est conçue par Luc pour nous faire penser à quelque chose qui s'est passé déjà dans l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas lu le livre d'Exode récemment, peut-être cela ne vous évoque rien. Mais est-ce que vous connaissez un moment où quelqu'un a passé du temps sur la montagne, dans la présence de Dieu, pour ensuite redescendre, s'adresser aux douze tribus, et leur donner des lois, des principes pour comment vivre ensemble? Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le livre d'Exode avec Moïse au mont Sinaï. Et c'était un moment où Dieu était en train de constituer son peuple. Ce peuple qu'il a sauvé, qu'il a tiré hors d'Égypte, il leur donne rendez-vous à cette montagne. Moïse monte, passe du temps dans la présence de Dieu, et puis redescend avec des principes et des lois. Et le but de ces lois, ce n'était pas pour dire aux gens, voilà comment vous devez mériter le paradis, mériter la grâce de Dieu, mériter le salut, parce que Dieu venait de les sauver, il venait de les racheter d'Égypte, ils étaient son peuple, un nouveau peuple. Maintenant, Dieu leur a donné des lois pour qu'ils puissent vivre une vraie nation, un vrai peuple, une communauté basée sur les principes de Dieu, sur le caractère de Dieu, et ainsi être une lumière pour le monde, pour les nations. Et ici, dans le récit que nous venons de lire, nous retrouvons ce même schéma. Jésus passe toute la nuit dans la prière, dans la présence de Dieu, de son Père, sur la montagne. Ensuite, il choisit 12. Il choisit 12 parmi les disciples auxquels il donna le nom apôtre. Alors évidemment, 12, c'est pas anodin, c'est... 12 apôtres, c'est un reflet, un écho des 12 tribus. Même la Bible va développer ce thème, et en Apocalypse, on va relier les 12 tribus, les 12 apôtres. C'est pour parler du peuple de Dieu, le peuple que Dieu va faire. Tout comme il y avait 12 tribus, il y a maintenant 12 apôtres qui vont être la base, le fondement de ce nouveau peuple, le peuple de Christ, qui va composer son royaume. Par contre, cette fois-ci, c'est un peu différent par rapport à Moïse et le mont Sinaï et Israël. Cette fois-ci, c'est 12, c'est des individus, et ils constituent le peuple de Dieu, parce que Jésus leur adresse un appel personnel à les suivre. C'est plus une affaire individuelle cette fois-ci. C'est pas une question de tribu, de famille, d'appartenance ethnique ou nationale. C'est un appel personnel à suivre, à s'attacher à Jésus-Christ. Et puis, dans ses disciples plus élargis, donc Jésus choisit 12 parmi les disciples qui le suivaient, et dans la foule de ses disciples, déjà, on voit qu'il y a une multitude de personnes, ça c'est verset 17, de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon, c'est en dehors d'Israël. Donc là, maintenant, les disciples qui le suivent sont composés non seulement des Juifs, c'est plus une affaire ethnique, géographique, c'est plusieurs peuples maintenant qui composent le royaume, le peuple de Jésus-Christ. Et puis, même plusieurs ont fait une étude un peu sur les personnages et les personnalités qu'on trouve parmi les 12 apôtres. On ne va pas ce matin faire un portrait de chaque apôtre, mais on peut voir que Jésus regroupe des personnes qui sont quand même bien différentes les unes des autres, et ils vont les mettre ensemble dans cette communauté autour de sa personne. Juste un exemple de à quel point ça pouvait être fort, on apprend ici, verset 14, que dans les disciples, il y avait Matthieu. On a parlé de Matthieu la semaine récemment. Puisque Matthieu, c'est aussi Lévi dans le Nouveau Testament. Et ce Lévi, il était un publicain, collecteur d'impôts, que Jésus appelle à le suivre. Et à côté de lui, juste à côté de lui, verset 15, il y a Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et puis Simon, appelé le Zélote. Et si vous y pensez un peu, c'est très fort. Vous avez Lévi le publicain, Matthieu le publicain, qui va être réuni avec Simon le Zélote. Et en fait, à l'époque, c'était l'extrême droite et l'extrême gauche. Lévi le publicain, il travaillait pour le compte des Romains avec tous ses impôts, et c'était, voilà, ça c'était, ils étaient détestés par les nationalistes, les zélotes. Il y avait ce groupe des zélotes qui voulaient affranchir Israël des pouvoirs romains. Donc, au sein de la communauté de Jésus, vous avez Lévi le publicain et Simon le zélote. Ça, c'est très fort. Et tous les deux, ils vont devoir quitter un peu leur appartenance, on va dire, politique ou leur manière de vivre. On a vu comment Jésus a transformé la vie de Lévi et il a laissé sa table d'impôts pour suivre Jésus-Christ. Simon le zélote, il ne va plus s'attacher aux sectes, à ce groupe de mouvements politique nationale des Zélotes. Maintenant, il va suivre Jésus-Christ. Il va toujours être appelé Simon le Zélote pour le distinguer de Simon Pierre et tout ça. Mais les voilà ensemble dans le même peuple de Dieu. Pour montrer que voilà, la solution, ça vient ni de la gauche ni de la droite, mais ça vient d'en haut, ça vient de la personne de Jésus-Christ. Et puis, qu'est-ce qui tient toutes ces personnes ensemble? Qu'est-ce qui fait le lien commun pour être une communauté? Eh bien, c'est qu'ils se rassemblent autour de Jésus-Christ. Et j'aime bien ce verset, verset 19, « Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Et notamment, ils étaient guéris à la fois des maladies et puis aussi des esprits impurs. Et c'est très intéressant dans l'évangile de Luc. Quand on parle du royaume de Dieu, souvent c'est associé à justement les moments où Jésus guérit des maladies et chasse des démons. Pour montrer que Jésus, il peut guérir, réparer et des problèmes d'ordre physique et des problèmes d'ordre spirituel. Il chasse des esprits impurs et il guérit les maladies à cause de cette force qui sort de lui. Et c'est ça un peu la nouveauté de ce qu'apporte Jésus, c'est ainsi qu'il est en train de créer un nouveau peuple. C'est la nouveauté que Jésus apporte, il est capable et de gérer les problèmes d'ordre spirituel et les problèmes d'ordre physique. Et ça, jusqu'à là, personne vraiment a pu faire ça. La politique va dire, nous on s'occupe juste du physique, du matériel, donc l'éducation, les soins, là on peut soigner, on peut essayer de rectifier certains problèmes. La religion va dire, nous, on va s'attentier sur les problèmes d'ordre spirituel, mais souvent on a reproché à la religion de ne pas être dans le concret, d'apporter les solutions. Donc, aujourd'hui, quand on regarde bien, et la politique et la religion, au lieu d'harmoniser une communauté, au lieu de créer la paix et l'harmonie entre gens, en général, ça creuse les écarts. Quand vous êtes ensemble dans un groupe, pour préserver l'entente, on dit qu'il ne faut surtout pas parler de politique et de religion. Donc il faut autre chose, il faut autre chose. Et cette autre chose, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est le roi, le vrai roi. Et ce Jésus, il a l'avantage d'être Dieu. Et il peut utiliser sa force, cette force qui sort de lui pour guérir, pour réparer toutes sortes de problèmes. Lui, et il va montrer par là qu'il n'y a pas que des problèmes physiques. Il y a surtout aussi parfois des problèmes spirituels qu'il faut régler. Et c'est Jésus qui permet de rectifier cela. Il rétablit la relation entre les hommes et Dieu. Et c'est ça qui permet de réparer les relations entre hommes. Donc Jésus, il est en train de rassembler tout ce monde autour de lui. Il peut les guérir, les réparer et les tenir ensemble par cette force qui sort de lui. Et ainsi, il crée un nouveau peuple. Il est en train de créer une nouvelle humanité, si on peut parler ainsi. Bien sûr, ici, ce n'est que l'inauguration. On parle de 12 et puis les disciples autour. Il les rassemble autour de lui. Et les gens viennent pour l'entendre, pour être soignés, guéris. Ce n'est que l'inauguration. Ce qu'il a fait sur petite échelle, sur les collines de Galilée, il peut le faire sur grande échelle dans le monde entier, notamment quand il revient. Mais la bonne nouvelle, on peut être sûr, c'est la destinée du monde, c'est la destinée garantie du monde, c'est de enfin réussir cette vie communautaire, cette vie à laquelle tous souhaitons, à laquelle nous essayons d'en faire des vœux chaque année pour que ça, encore cette année, nous réussissions cette entente, cette harmonie. Eh bien, c'est la destinée du monde puisque Jésus le garantit étant le roi fort qui peut l'accomplir. Donc déjà, cela devrait nous donner envie de s'attacher à lui, de faire partie de ce projet, de ce plan, de cette communauté, parce qu'elle va réussir. Contrairement à d'autres projets, nous pouvons être sûrs que celui-ci va réussir. Ensuite, nous allons voir que ce nouveau peuple va être basé sur des nouvelles valeurs. Et c'est ça qui va aussi changer tout le fonctionnement. Ça, c'est dans les versets suivants, versets 20-26 notamment. Jésus un peu dévoile ses valeurs, les valeurs clés de son royaume, de sa communauté. Et comme vous savez, c'est à partir des valeurs qu'on établit une ligne de conduite, qu'on établit une manière de fonctionner. Aujourd'hui, on parle des valeurs de la République pour justifier certaines démarches, certaines conduites. Et si Jésus parle des valeurs de son royaume, il les donne en forme de bénédiction et malédiction. Heureux vous qui êtes comme ça, et puis malheur à vous qui êtes comme ça. Et puis tout le monde constate quand on regarde ce que Jésus dit ici, qu'il est en train de renverser les valeurs de ce monde, les valeurs typiques, les valeurs avec lesquelles nous fonctionnons dans ce monde. Jésus est en train de les renverser complètement. On peut commencer avec les malheurs notamment, pour voir. Oui, Jésus met le doigt sur un peu le problème dans notre monde et qui empêche de bien vivre en communauté. Tout d'abord, il dit « Malheur à vous riches », verset 24. « Malheur à vous riches ». Alors, Jésus n'est pas en train de dénoncer toute forme de richesse, tout argent. Mais comme vous savez, la richesse, c'est souvent une question de pouvoir. Quand on regarde le monde aujourd'hui, les événements politiques, le pétrole, les mines de diamants en Afrique, toutes ces richesses, c'est une affaire de pouvoir. D'où vient tout le drame, toutes les difficultés de s'entendre, parce que c'est une question de pouvoir. Les gens doivent poursuivre ces choses. Donc Jésus parle de cette valeur qui est le pouvoir que l'homme recherche souvent. Ensuite, verset 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés. De quoi parle-t-il là? Quelle valeur met-il en avant? On pourrait dire que c'est le confort. Être rassasié, être repu, être dans ce luxe du confort, c'est aussi ce que l'homme recherche souvent. Jésus n'est pas en train de dénoncer avoir bien mangé un repas, mais cette valeur qui dirige notre monde, cette recherche de luxe et de confort. Ensuite, encore dans le verset 25, « Malheur à vous qui riez maintenant !» Malheur à vous qui riez. Quelle valeur est mise en avant là? Encore une fois, Jésus n'est pas contre toute forme de rire. Il y a un rire qui est sain, un rire de reconnaissance, un rire peut-être que vous avez ri cette semaine, ce matin, j'espère, un rire de joie. Mais le rire en question, semble-t-il, c'est un rire moqueur, un rire triomphaliste, un rire qui est aux dépens des autres. Un peu le rire qu'on connaît dans cette expression, « rira bien qui rira le dernier ». Et ce rire-là, c'est « haha, j'ai gagné et toi t'as perdu ».« Haha, j'ai réussi, toi t'as pas réussi ». C'est ce rire-là qui anime beaucoup de gens dans ce monde. Et on pourrait traduire ce rire dans une valeur que recherchent beaucoup, c'est la réussite. Et notamment la réussite aux dépens des autres. Donc le pouvoir, le confort, la réussite. Et puis enfin, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, verset 26. Quelle valeur là ressort? Eh bien c'est la reconnaissance, le regard approbateur des autres, la gloire des hommes. Donc, c'est intéressant, Jésus fait le tour des valeurs de ce monde, le pouvoir, le confort, la réussite et la reconnaissance. Et c'est vrai, c'est l'état de ce monde, c'est les valeurs qui dirigent les gens autour de nous, c'est une évidence. Dans notre société encore aujourd'hui, le pouvoir, le confort, la réussite, la reconnaissance. Et ces valeurs vont dicter nos comportements, nos priorités, nos relations avec les autres. Mais à côté de ça, Jésus, il introduit de nouvelles valeurs. un autre programme. Et il va dire, dans ma communauté, dans mon royaume, ce qui est précieux, ce qui est valorisé parmi mes disciples, c'est tout le contraire du pouvoir, confort, réussite et reconnaissance. C'est plutôt la faiblesse, le sacrifice, le deuil et tristesse, et le rejet. Et Jésus met ses valeurs en avant dans ce discours. Au premier regard, cela n'a aucun sens. Si vous avez le choix ce matin, préférez-vous être riche, repu, réussi et reconnu, ou pauvre, affamé, triste et rejeté? Qui s'engage? Qui s'engage dans cette communauté, ce royaume, ce projet? Au premier regard, ça n'a aucun sens. Mais comprenant ce que Jésus dit, il y a toute une sagesse dans sa parole, parce que, bien sûr, il n'est pas en train de dire qu'il faut refuser toute forme de richesse, de confort, de joie, de reconnaissance, mais en prenant ses bénédictions et ses malédictions, il met son doigt sur le problème de notre monde et qui divise, qui gâche nos relations. Parce que quand il y a cette recherche frénétique, cette recherche sans borne pour le pouvoir, le confort, la réussite, la reconnaissance, c'est ça qui détruit les gens, c'est ce qui détruit les relations entre nous, c'est ce qui détruit une communauté, c'est ce qui détruit l'ambiance au travail, c'est ce qui détruit des pays. Vous avez remarqué, ceux qui, en général, réussissent selon ces valeurs du monde, le pouvoir, le confort, la réussite, la reconnaissance, ceux qui montent très haut et réussissent, en général, c'est aux dépens des relations les plus chères que nous avons dans la vie. Vous avez remarqué ça, c'est une évidence. Ceux qui réussissent, ceux qui grandissent dans ce monde, on regarde un peu leur vie de famille, leur vie de mariage, leur vie, c'est catastrophique. Parce qu'il fallait sacrifier ces choses pour atteindre pouvoir, confort, réussite et reconnaissance. Et nous sommes souvent prêts à sacrifier ces choses, ces relations, ces amitiés, ces ententes pour remporter, pour gagner selon les valeurs du monde. Et en plus de ça, nous sommes prêts à nous débarrasser de Dieu, à oublier Dieu, si jamais nous pouvons atteindre pouvoir, confort, réussite et reconnaissance par d'autres voies. Et ça explique l'état de notre monde. Mais Jésus, il renverse ses valeurs, il dit voilà, nous, dans mon royaume, dans ma communauté, ça va fonctionner autrement, et ce serait la force, c'est ce qui va faire réussir quand mes disciples vivent ainsi entre eux, et qu'ils sont prêts à accepter une faiblesse, cet état affamé, pleure, rejeté. Et puis, Luc va pouvoir expliquer ce que Jésus va dire tout au long de son évangile. Il va nous donner des portraits des personnes faibles, comme des veuves, faibles et pauvres, comme des veuves, qui, eux, vont entrer dans le royaume, qui vont accéder au royaume, ils vont pouvoir toucher Jésus-Christ. Il va nous donner un portrait de gens qui sont affamés, comme Lazare, le pauvre Lazare, à côté de l'homme riche, qui vivait dans le confort, le luxe, la table bien mise, et Lazare avec les miettes affamées. On va avoir un portrait, par exemple, quelqu'un qui pleure, notamment dans le chapitre suivant, la femme pécheresse qui pleure, qui verse des larmes aux pieds de Jésus-Christ. On va avoir un portrait de quelqu'un de rejeté, une personne comme Zachée, rejeté comme les publicains de la société, parce qu'ils étaient haïs, insupportés. Et là, ces personnes-là, finalement, ils vont trouver une place dans le royaume de Jésus-Christ. Parce que dans le monde, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont rien. Mais dans la communauté de Jésus, ils sont bien placés. Ils sont bien positionnés, d'abord pour comprendre Jésus, pour comprendre qu'ils ont besoin de lui en tant que roi, en tant que maître. Ils comprennent que oui, j'ai besoin de cette force qui émane de lui, qui peut me guérir. Et donc, Jésus Voilà, on renverse les valeurs et en faisant cela, du coup, une communauté devient possible. Et le dysfonctionnement normal n'est plus normal. Et puis à partir de ces valeurs, si on prend les versets suivants, versets 27 à 38, à partir de ces valeurs, Jésus montre la ligne de conduite, des comportements qu'on va trouver parmi ceux qui appartiennent à son royaume. Mais moi je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. On peut faire ça dès l'instant qu'on a compris que, voilà, comme il dit en verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » C'est-à-dire, il y a un lien entre les valeurs que Jésus met en avant et puis le comportement auquel il va appeler. Mais là encore, il faut comprendre ce que Jésus est en train de dire. Il parle de tourner la joue, tout le monde connaît cette expression. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Alors, supposons qu'on va mettre vraiment à la lettre ce principe cette semaine. Alors, vous donnez votre manteau et votre chemise, vous le faites 5 jours d'affilée. Après, votre garde-robe est vide et vous vous promenez tout nu dans la rue. Bon, c'est évidemment ce pas à quoi Jésus nous appelle. Il n'est pas en train de dire, allez, faites-vous tabasser jour après jour. Et une chose qui m'a un peu éclairé, c'est à un moment, Jésus lui-même a été frappé sur la joue, notamment lors de son procès, il a été frappé sur la joue. Et lui, littéralement, il n'a pas forcément tourné l'autre joue, il a répondu. Il a répondu avec des paroles, il a dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc, il a parlé, mais son attitude, c'est son attitude qui revenait avant. Il y avait une attitude de non-riposte, une attitude d'humilité, une attitude de pardon. C'est ça que ces illustrations montrent si bien, que ce soit le manteau, la tunique, la joue. C'est une attitude de cœur que Jésus nous enseigne à partir des valeurs de son royaume. Cette attitude de miséricorde, cette attitude de générosité, cette attitude de service désintéressé. Imaginons un monde où les gens faisaient ça. Ce serait le paradis sur terre si tout le monde faisait ça. Pas juste la moitié des gens, parce que s'il n'y avait que la moitié des gens, il y aura des exploitants et des exploités. Mais si tout le monde faisait ce que Jésus disait, ce serait le paradis sur terre, ce serait une communauté merveilleuse. Voilà, les nouvelles valeurs de Jésus peuvent vraiment changer et créer la communauté que nous recherchons. Mais nous lisons ça et nous disons quand même c'est la folie, c'est ridicule, ça ne marche pas. Nous en France, on sait, et il faut se contenter d'un dysfonctionnement normal. Le normal, c'est dysfonctionnement, on s'y fait et on essaie de s'en sortir, mais le normal, tout ce qui on peut s'attendre, c'est ce dysfonctionnement. Ça ne marche pas vraiment comme ça. On est convaincu, là, ça ne marche pas vraiment comme ça. Et s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que cet ordre de vivre ces nouvelles valeurs, effectivement, ce serait une impossibilité. Mais Jésus, en donnant des nouvelles valeurs, créer ce nouveau peuple, il donne aussi des ressources, des nouvelles ressources qui sont inépuisables. Et nous pouvons voir ces ressources maintenant pour terminer. Parce que vers la fin, verset 35, il disait « Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. » Et puis il dit « Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » C'est-à-dire, il nous renvoie à la nature de Dieu lui-même qui est comme ça, qui est miséricordieux. Qui donne généreusement, librement. Et dans la mesure que nous avons compris que c'est ce Dieu-là qui est notre Père, c'est ce Dieu-là qui est notre Roi, dans la mesure que nous avons compris ça, oui, ça nous donne des ressources pour agir de même envers les autres. Dans ce dysfonctionnement normal qui est la France. Le livre aussi essaie d'expliquer un peu ça, pourquoi, d'où vient tout ça. C'est vrai qu'il y a une certaine méfiance par rapport à l'autre, notamment dans tous ces rapports entre roi et sujet, entre administration et administré, entre syndicat et direction. Il y a une méfiance, il y a un pessimisme. D'où vient tout ça? Certainement dans le passé, c'est parce qu'il y a eu des abus d'autorité. C'est un peu, on connaît l'histoire de la France, il y a eu des abus d'autorité, le roi, les religieux, les politiciens et les religieux ont abusé l'autorité qui leur a été confiée pour rendre, pour nous donner une certaine méfiance envers l'autre, envers celui qui est une autorité. Et c'est un peu chacun défend sa peau pour se préserver. Et ça crée l'ambiance que ça peut créer. Mais dans ce roi, dans le roi de cette nouvelle communauté, de ce royaume, là, ça change. Pour une fois, c'est différent. Ce roi, il est différent de tous les autres. Et ce roi, il n'a pas abusé de son autorité. Au lieu de ça, il a donné sa vie. Et si vous reprenez ces versets, toutes les choses que Jésus a enseignées, eh bien, il les a incarnées, il les a accomplies pour nous, notamment à la croix. C'est à la croix, on a déjà évoqué ça ce matin avec l'Église persécutée, à la croix, Jésus a aimé ses ennemis et a prié pour eux. À la croix, il a tourné l'autre joue, il s'est présenté tout son corps, son dos, pour être frappé, fouetté, sans riposter. À la croix, on a pris sa tunique, jusqu'à ce qu'il n'avait plus rien, et puis qu'est-ce qu'il avait de plus à donner? Eh bien, sa vie, il a donné. Quand le verset 37 dit « Ne jugez point, vous ne serez point jugés, ne condamnez point, vous ne serez point condamnés, absolvez, vous serez absolus. » C'est ce que Dieu a trouvé une manière de faire ça pour nous, de ne pas nous juger, tout juste qu'il est. Il a trouvé une manière de nous absoudre, de nous acquitter, puisque c'est Christ qui a pris à notre place le jugement, la punition. Et du coup, Dieu peut ne pas nous juger. Et nous, dans nos rapports avec les hommes, on peut avoir ce même regard. Je ne juge pas, je ne condamne pas, parce que je laisse Dieu s'occuper de cette affaire. C'est lui le juge. Et comme il m'a gracié, je choisis d'avoir un regard de grâce envers l'autre. Et puis, le verset 38, très beau, « Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué qui déborde, quand vous mesurez avec la mesure dont vous serez servi. » À l'époque, il mesurait les choses dans le pan de la robe, donc on versait, et puis soit on était un peu radin, et donc on versait le minimum, soit on secouait pour que les choses se tassent un peu, et puis on mettait encore, et puis ça débordait, on serrait un peu, et voilà, c'était merveilleux. Ça vous arrive aussi, hein, vous allez au restaurant ou un flunch ou quelque chose et on vous sert des frites. Hein. Vous espérez que celui qui vous sert les frites, il est dans cette générosité où il fait que ça déborde sur votre assiette. Ou sinon, il donne le strict minimum, c'est une louche ou une pincée. Voilà, vous êtes un peu... Voilà l'image que Jésus reprend. Hein, et il dit, soyez comme ça, mais qui n'a pas été radin envers nous, avec son salut? Eh bien, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ, notre roi. Il n'a pas été radin, il ne nous a pas donné le strict minimum, bien plus, il a donné en bonne mesure, secoué, serré, et qui déborde. Ce salut, cette grâce qui nous donne la vie que Jésus-Christ nous a acquis à la croix, eh bien, c'est ça, c'est un salut, une grâce abondante, qui abonde, qui va au-delà de tout péché, qui couvre tout péché, et bien plus, et qui déborde dans nos vies. Et quand on a ce salut qui déborde dans notre cœur, eh bien ça déborde, cette grâce, cette bonté, dans la vie des autres. Et du coup, ça crée une ambiance merveilleuse, ça crée une communauté qui peut marcher ensemble, vivre ensemble, s'aimer ensemble, parce que chacun a cette grâce, cet amour, ce salut qui déborde de son cœur, puisqu'il l'a reçu de Dieu. Et ça fait que même si on est pauvre aux yeux du monde, on est comblé, on est comblé. On a reçu en bonne mesure. Même si on est affamé, qu'on manque de confort aux yeux du monde, on vit déjà dans le palais, on vit déjà dans la présence de Jésus-Christ. Même si on est rejeté par les hommes, on a déjà le regard approbateur de Dieu et c'est que du bonheur. Donc vous voyez que ce que Dieu a fait pour nous, la manière que lui, il était bon pour les ingrats et les méchants que nous étions, notamment la croix en Jésus-Christ, ça c'est une ressource inépuisable, renouvelable chaque jour, qui va vraiment pouvoir créer une nouvelle manière de vivre, une nouvelle humanité, une nouvelle communauté. C'est ce qu'il faut, c'est cette ressource, ces ressources abondantes. On sait qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, c'est parfois le manque de ressources qui crée parfois des tensions, des conflits, des guerres, des difficultés pour une commune de gérer des différentes populations. On voit, on parle des inégalités des ressources, tout ça. Donc on dit, si on pouvait avoir les ressources illimitées, ce serait merveilleux, ce serait la paix, ce serait l'harmonie. Bon, c'est pas toujours le cas. On vous a raconté que lorsqu'on était au Venezuela, on a été marqué parce que l'essence, le pétrole, il donnait, pour ainsi dire, je crois que c'était 3 euros pour faire le plein dans sa voiture. Alors, ce serait super, le pétrole gratuit, on pourrait faire marcher nos voitures, nos chaudières, tout ça, ressources illimitées. Est-ce que ça règle tous les problèmes? Non, on a vu quand même des problèmes, des difficultés au Venezuela, des bidonvilles, des crimes, des zones de difficultés. Donc ce n'est pas parce que les ressources énergétiques, en tout cas, étaient gratuites, en illimité, que ça réglait les problèmes. Par contre, dans le royaume de Jésus-Christ, dans la communauté de Jésus-Christ, ça, nous avons une ressource illimitée, c'est son pardon, c'est sa bonté, c'est sa grâce. Et ça, c'est en abondance, comme Raphaël disait la semaine dernière, un forfait illimité. Et ça, quand vous l'avez, ce forfait-là, ça déborde dans la vie des autres. Et ça permet de vivre ensemble et d'être cette communauté autour de Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait dire, oui, tout ça, c'est beau, mais ça n'existe pas. Peut-être au paradis, mais ça n'existe pas, c'est des paroles en l'air. Jésus, comme bien d'autres, il prêche l'utopie et on ne la voit pas. Mais, si quand même, une communauté chrétienne, une église locale, devrait pouvoir dire, c'est quand même une réalité parmi nous. Avec des imperfections, avec des ratés de temps en temps, mais c'est une réalité. C'est-à-dire le dysfonctionnement normal n'est pas si normal. Et de moins en moins normal. Et de plus en plus rare. Avec Jésus-Christ, dans sa communauté, c'est merveilleux, c'est doux et agréable de vivre ensemble. Le dysfonctionnement n'est pas normal. L'amour est normal. Le pardon est normal.